Vous êtes sur RTL.
12h30.
RTL Midi.
Le 12-30.
Avec Amandine Bégaud.
Et bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Ravi de vous retrouver à la une de ce vendredi. Ces nouveaux renforts attendus dans les hôpitaux de Guadeloupe et de Martinique qui continuent de voir affluer les cas de Covid. 300 soignants doivent quitter cet après-midi Paris, direction les Antilles. L'un d'eux sera en direct avec nous. Ici en métropole, en revanche, la situation semble s'améliorer. Du mieux aussi dans le Var, le feu qui ravage l'arrière-pays de Saint-Tropez est désormais fixé. Et puis on parlera foot avec un retour, celui de Didier Deschamps. Pour la première fois depuis la débâcle des Bleus à l'Euro, le sélectionneur tricolore prend la parole. Pas de mea culpa ni d'excuses, il assume tout. Et vous, faites-vous toujours confiance à Didier Deschamps? C'est notre question du jour sur RTL.fr. Et vous dites oui à 50%, non à 31%. On attend bien sûr vos appels au 3210 sur ce sujet, mais sur bien sûr tous les autres sujets d'actualité. La météo, c'est avec vous, Claire Delorme, aujourd'hui. Bonjour Claire.
Bonjour Amandine, bonjour à tous.
Voilà, ça va pas du tout, parce qu'on nous avait promis une amélioration légère, certes, mais quand même, notamment dans le nord, et ça reste très très nuageux. Hein.
Amandine, la patience est une vertu. Le soleil, on va l'avoir cet après-midi, mais il va falloir aussi composer avec des nuages. C'est ce qu'on appelle un ciel variable. Donc oui, en effet, on va voir ce ciel un petit peu en demi-teinte toute l'après-midi vers l'Auvergne, les Pays de la Loire, la Bourgogne, en remontant vers le nord-est. Les nuages seront un petit peu plus denses d'ailleurs, hein, vers la Bretagne, la Normandie, les Hauts-de-France, avec quelques timides éclaircies, je vous l'accorde. Par contre, pour la moitié sud, le soleil l'emporte, mais on n'est pas à l'abri encore de quelques averses, hein, sur les reliefs qui pourraient conduire à l'orage, que ce soit vers les Pyrénées, les Alpes du Sud ou encore vers la Corse. Pour les températures, elles sont en légère hausse d'ailleurs. 21 à 26 degrés pour le quart nord-ouest. Elles atteigneront 25 à 31 degrés du nord-est au sud-ouest et jusqu'à 30-33 degrés là encore en Provence.
Merci beaucoup Claire. À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
RTL Midi.
Et d'abord, une fois n'est pas coutume, on commence avec une bonne nouvelle. Ça s'arrange sur le front du Covid, en métropole en tout cas. Le nombre de contaminations repart à la baisse. Bonjour Sophie Jousselin.
Bonjour Amandine, bonjour à tous.
Il faut bien sûr rester extrêmement prudent, mais c'est plutôt bon signe.
Oui, depuis le début de la semaine, le nombre quotidien de contaminations est en baisse par rapport à la semaine dernière. Sur 7 jours, la tendance est sensible, à moins 5%, mais elle demande bien sûr à être confirmée sur la durée. Signe positif aussi, le nombre de nouveaux cas s'inflige. Fléchit dans les régions à forte contamination, les régions littorales qui rassemblent beaucoup de touristes, notamment PACA, l'Occitanie, la Nouvelle-Aquitaine et la Corse. Ces chiffres réconfortants s'accompagnent aussi d'une baisse du taux de positivité et du taux d'incidence. Alors pour l'instant, il n'y a pas encore de réelle baisse des entrées à l'hôpital. Il y a toujours un décalage de plusieurs semaines. On note seulement pour l'instant un léger ralentissement du rythme des hospitalisations. Mais bon, on ne va pas s'emballer. La rentrée scolaire est devant nous et le milieu médical craint un rebond. Les moins de 12 ans ne sont pas vaccinés et le retour à l'école pourrait faire repartir à la hausse le nombre de nouveaux cas.
Sophie Jousselin, merci beaucoup pour ces explications aux Antilles. En revanche, la situation reste toujours très préoccupante. 300 professionnels de santé quittent aujourd'hui l'aéroport d'Orly, direction la Martinique et la Guadeloupe. Ils doivent prendre la relève des équipes déjà sur place, parties la semaine dernière. Parmi eux, le lieutenant-colonel Jean-Paul Bolland. Merci beaucoup d'être en direct avec nous ce midi sur RTL. Vous êtes membre de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Est-ce que vous savez déjà quelle sera exactement votre mission sur place dans les prochains jours?
Oui, bonjour. En effet, donc, nous sommes deux avions à partir en fin d'après-midi, un pour la Guadeloupe et un pour la Martinique, pour effectuer la relève tout simplement de nos collègues qui ont été engagés la semaine dernière sur notamment des missions de renfort logistique et renfort des centres face à l'événement d'ampleur qui frappe les Antilles.
Quelle est la situation sur place, ce que vous en savez, ce que vous disent vos collègues, ceux avec qui vous avez pu être en contact ces derniers jours?
Alors nos collègues nous parlent très clairement d'une situation plus qu'alarmante au nom de Covid déclaré et qui bien sûr amène un surcroît d'activité pour l'ensemble des équipes de secours traditionnelles. D'où l'importance de la Direction générale de la Sécurité civile qui a souhaité relever et renforcer les équipes locales.
C'était un souhait de votre part que de partir là-bas?
Nous sommes forcément tous volontaires lors d'un départ en mission. Et comme nous remplissons les conditions, notamment de vaccination Covid, oui, tous les personnels engagés sont des personnes qui sont volontaires au départ pour la mission.
Cette solidarité entre la métropole et les Antilles, elle est essentielle ?
Ben, elle est essentielle, elle fait partie de l'ADN des sapeurs-pompiers de France.
Merci beaucoup, en tout cas, lieutenant-colonel Jean-Paul Bolland, d'avoir été en direct avec nous. On vous souhaite beaucoup de courage, ainsi qu'à toutes les équipes donc, qui partent à bord de ces deux avions cet après-midi. Vous nous le disiez, l'un pour la Guadeloupe, l'autre pour la Martinique. Cette crise sanitaire continue par ailleurs, et ça c'est le volet économique, de plomber certains secteurs. Nouvel exemple aujourd'hui avec Toyota, qui va réduire de 40% sa production mondiale. Ici en France, l'usine d'Onin, près de Valenciennes, va rester fermé 2 semaines de plus, faute de semi-conducteurs. Sur les 5000 salariés du site, 4500 seront placés en chômage partiel et ils ne cachent pas leur inquiétude, Antoine Decarne.
Oui, car tout le monde pensait reprendre ici lundi, comme d'habitude, après les 3 semaines de fermeture annuelle. Mais il faudra encore patienter 2 semaines. Thomas Mercier, de la CFDT Toyota Onin.
Un gros coup de massue quand même pour les salariés Toyota. 2 semaines supplémentaires, certains vont peut-être être contents pour continuer les vacances, mais beaucoup, une majorité quand même de salariés sont inquiets.
Et tous les salariés ont appris la nouvelle par SMS. C'est la pénurie mondiale de semi-conducteurs qui a entraîné cette fermeture. Une pièce essentielle utilisée pour le système de freinage, explique Fabrice Cambier de Force Ouvrière.
C'est une des pièces majeures qui correspond, on va dire, à un très gros volume de production de chez nous et qui impacte également donc la Yaris et la Yaris Cross, donc les deux véhicules.
En fait, le fournisseur européen du groupe n'arrive plus à se faire livrer depuis l'Asie, où les usines de production au Vietnam et en Malaisie ont été arrêtées à cause du Covid. Et pour Thomas Mercier, ça commence à faire beaucoup.
Ça s'arrête quand ? Parce qu'on a connu le Brexit, on a connu les intempéries, on a connu le Covid, on le connaît encore aujourd'hui. Et aujourd'hui, la situation du Covid dans le monde, on voit très bien que ça peut avoir des impacts sur les entreprises françaises. Et du coup, ça reste inquiétant quand même pour l'avenir.
Les 4500 salariés en chômage partiel toucheront 84% de leur salaire net après un accord avec l'entreprise. Et le retour à l'usine ici est attendu de pied ferme.
Reportage signé Antoine Decarne pour RTL. Et pour les clients qui attendent leur Yaris, pour l'instant, aucune conséquence. Le constructeur le promet, il n'y aura pas de retard. Dans ce contexte, voilà une initiative qui n'est pas passée inaperçue. Cette note distribuée aux détenus de la prison de Sarreguemines en Moselle. Des réductions de peine pour ceux qui acceptent de se faire vacciner. C'est bien ça, Samuel Goldschmidt ?
Oui, dans cette note qui émane du service de l'application des peines, il a dit que tous les détenus qui se feront vacciner contre le Covid-19 bénéficieront automatiquement de l'intégralité de leur réduction de peine potentielle, dans la limite de 2 mois de réduction toutefois. Sont exclus de ce dispositif les détenus condamnés pour violence conjugale, violence sur mineurs, harcèlement et pour tous les faits de violence sexuelle. L'idée est de récompenser, explique-t-on, un effort sérieux de réadaptation sociale, la vaccination en faisant partie ici. Et l'étude de ces remises de peine ne commencerait qu'en septembre, quand la commission d'application des peines se réunira, comme elle le fait régulièrement, pour examiner les dossiers des détenus. Alors au ministère de la Justice, on marche sur des œufs en soulignant que c'est une initiative locale. Il n'y a pas d'instruction ministérielle globale quant à des remises de peine pour bonne vaccination. Les parquets ont une certaine autonomie dans l'application des peines, dans les limites de la loi. Et là, le problème, c'est que selon la loi, les réductions de peine doivent être individualisées. Selon le procureur de Sarreguemines, on verra en septembre si le dispositif sera appliqué tel quel à la maison d'arrêt.
Samuel Goldschmidt en Moselle pour RTL. Merci à vous. 12h38, on marque une toute petite pause et dans un instant, on part pour la Haute-Garonne après cette noyade d'un adolescent de 15 ans mort noyé alors qu'il se baignait avec ses camarades de colonie de vacances. À tout de suite.
RTL Midi avec Amandine Bégaud. RTL Midi avec Amandine Bégaud.
Et direction à présent la Haute-Garonne, après cette nouvelle noyade. Un adolescent de 15 ans qui était en colonie de vacances a été retrouvé mort dans un lac à Barbazan. Un lac où la baignade était pourtant interdite, Patrick Tégéraud.
Oui, il s'agit d'un minuscule lac de montagne. Les rives sont assez dangereuses et les 2 arrêtés municipaux affichés sur le chemin d'accès du lac datent de 1961 et 1976. Ils annoncent clairement que la baignade est interdite. Le maire de Barbazan, Michel Strader, s'est rapidement rendu sur place.
Les secours sont restés plus d'une heure. Et on fait le maximum, il y avait le SAMU, 2 médecins, pour essayer de ramener ce jeune à la vie. Malheureusement, au bout d'une heure, ils ont dû constater le décès. Donc c'est un drame épouvantable sur notre commune. Ah ben je suis en colère, enfin je suis triste d'abord parce que ce qu'on a vécu hier, c'est épouvantable, c'est un drame. Je souhaite jamais revivre en tant que maire. et en tant que maman également. Hein.
Le groupe faisait partie d'une colonie de vacances de la mairie de Toulouse. Et non seulement la baignade était interdite, mais en plus, les 12 enfants, encadrés par 3 animateurs, avaient prévu de camper au bord du lac sans même demander d'autorisation. Les enfants et les encadrants sont entendus actuellement à la gendarmerie de Saint-Gaudens.
Patrick Tégéraud à Barbazan, Haute-Garonne, pour RTL. Dans le Var, à présent, l'incendie est ce midi fixé, mais toujours pas maîtrisé. Cela fait maintenant 4 jours et 4 nuits que plus de 1000 pompiers sont sur le pont. Des pompiers qui voient affluer les messages de soutien. C'est ce que vous avez pu constater à Cogolin, Raphaël Vantard.
Installé sur le parking d'un supermarché à Cogolin, une partie des sapeurs-pompiers engagés dans ce gigantesque incendie reçoivent plusieurs fois par heure la visite d'habitants des environs. Tous ont les bras chargés de victuailles. Gisèle, la 60aine, s'approche du poste de contrôle. Elle veut remercier elle-même les soldats du feu.
Ah ben, je leur ai apporté des compotes, du thon, des sardines, du maquereau, parce que moi j'habite la Molle et donc ils ont bien défendu. Et puis bon, je veux dire, ils sont là pour nous. Hein. Merci. Hein.
Des marques d'affection qui touchent les plus de 1000 pompiers encore engagés aujourd'hui. Des soldats du feu évidemment ravitaillés, logés, soignés sur place, mais qui commencent, après 4 jours de combat contre les flammes, à ressentir de la fatigue. Le commandant François Dossetti est le porte-parole des pompiers du Var.
On reste tous très motivés, mais c'est vrai que la fatigue se fait ressentir. On effectue bien entendu des relèves, mais ça reste très intense. On pense aussi à la famille de nos sapeurs-pompiers qui soutiennent l'engagement de leur papa, de leur maman. C'est un travail de longue haleine.
Malgré la météo chaude annoncée ce week-end et la reprise du vent, les pompiers espèrent annoncer dans la journée aux habitants que le feu qui ravage leur si belle terre est désormais sous contrôle.
Raphaël Vantard, envoyé spécial d'RTL dans le Var. En Afghanistan, les promesses de clémence et de tolérance n'auront été que de courte durée. Les talibans semblent avoir intensifié ces dernières heures leur traque contre les Afghans qui ont travaillé avec les forces étrangères. C'est ce que révèle un rapport de l'ONU. Bonjour Brice Dugénie.
Bonjour.
De nombreuses opérations de porte-à-porte notamment sont menées.
Oui, dans ce rapport, il est écrit que les talibans ont des listes prioritaires, des noms de personnes qu'il faut traquer. Les experts mandatés par les Nations Unies décrivent ce porte-à-porte au domicile des personnes recherchées avec à chaque fois des risques de torture et d'exécution. Les personnes visées, ce sont tous ceux qui ont travaillé pour les forces occidentales, mais aussi des avocats, des militants des droits de l'homme ou même des journalistes. Aujourd'hui, la radio allemande Deutsche Welle confirme que les talibans se sont rendus au domicile d'un de leurs reporters déjà rapatrié en Allemagne, mais les terroristes ont tué un membre de sa famille présent et blessé un autre. À Jalalabad, 2 journalistes ont été roués de coups et les domiciles de plusieurs d'entre eux ont été fouillés à Kaboul. Et dans les rues de la capitale, l'hostilité des talibans contre la presse et les opposants est de moins en moins contenue. Jour après jour, le discours de concorde nationale apparaît de plus en plus comme un écran de fumée.
Merci beaucoup Brice. Brice Dugénie du service étranger de RTL. Et à cette crise politique pourrait bientôt s'ajouter une crise humanitaire. Le programme alimentaire mondial tire la sonnette d'alarme.
En Afghanistan, vous avez une personne sur 3 en situation d'insécurité alimentaire. Ça correspond à 14 millions de personnes. Vous avez tout d'abord les conséquences socio-économiques de la Covid, mais vous avez également une sécheresse importante. Et vous avez notamment les récents conflits. Et ces conflits donc déplacent les populations. Et les populations qui se déplacent, ce sont des personnes qui n'ont plus forcément accès à leurs moyens de subsistance, à leurs champs, à leurs récoltes. Et vous avez également des infrastructures qui sont détruites. Nous avons d'énormes inquiétudes, notamment avec l'hiver qui approche.
Vous, qu'est-ce que vous espérez justement du nouveau pouvoir qui laisse aux humanitaires, aux ONG, la possibilité d'intervenir et ne referme pas totalement le pays ?
L'objectif du programme alimentaire mondial, hein, c'est de pouvoir rester dans le pays, et ce, partout.
Un Afghan sur 3 concerné, nous disait Marie Da Silva. C'est la porte-parole du programme alimentaire mondial. On en vient au sport et près de 2 mois après l'élimination des Bleus à l'Euro de foot, Didier Deschamps sort donc de son silence. Grande interview aujourd'hui à nos confrères de l'équipe. Nicolas Georgerot, le sélectionneur de l'équipe de France, est très clair, il assume tout.
Oui, c'est Deschamps, le paratonnerre en quelque sorte. Je sais que je suis le seul responsable, ma fonction veut ça. Il reconnaît une erreur tactique pour aborder le 8e de finale contre la Suisse. C'est ma responsabilité, répète-t-il. Une équipe de France portée sur l'offensive, un peu trop, et pas assez sur l'aspect défensif. Il vaut mieux être moins brillant, mais plus solide, ajoute le sélectionneur, qui dédouane publiquement les joueurs. Benzema, Mbappé, Griezmann, Pogba ou Coman positionnent temps, jeu ou mouvement d'humeur sur le terrain. Pas de coup de canif personnel, mais des éléments d'explication à chaque fois, et pas toujours convaincants. En creux, on comprend aussi que Giroud n'est pas certain d'être là dans une semaine pour la liste de la rentrée. Et quand les journalistes évoquent cet échec est lié à une possible usure du poste, il est là depuis 2012. L'avenir le dira, répond Deschamps, pour qui l'échec est surtout celui de l'instant T, la mauvaise gestion du score quand les Bleus mènent 3-1 à 10 minutes de la fin, bien plus que l'existence d'un malaise ou dysfonctionnement profond.
Explication signée Nicolas Georgerot. Côté terrain, début ce soir de la troisième journée de Ligue 1, Brest reçoit le PSG, mais ce sera toujours sans Messi et sans Neymar. Match à suivre sur RTL, hein, RTL Foot, je vous le rappelle, c'est dès 20h avec Eric Silvestro et Xavier Domergue. Et puis en tennis, cette toute dernière info après Roger Federer, fin de saison pour Rafael Nadal, c'est le joueur 4e mondial désormais qui l'annonce hein, sur les réseaux sociaux. Il évoque un pied douloureux. Autre rendez-vous, les 24 heures du Mans, ça commence demain à 16h. 62 voitures seront sur la ligne de départ pour cette 89e édition. Parmi elles, et c'est une première mondiale, Frédéric Veil, un équipage de pilotes handicapés.
Et oui, après son exploit de 2016, Frédéric Saucet voulait poursuivre son action en permettant aux pilotes en situation de handicap de se mesurer aux valides sur la plus célèbre course automobile du monde. C'est chose faite cette année, non sans mal.
La volonté de mettre en place cette filière, elle était réelle dès le début. Après, ça n'a pas été simple, mais on est là. C'est quand même une satisfaction de le faire avec deux pilotes en situation de handicap et puis un team manager qui est aussi en fauteuil. Ça prouve quand même qu'on peut faire des choses.
Ce sont donc le japonais Takuma Aoki, ancien champion de moto paraplégique aujourd'hui, et Nigel Bailly en fauteuil roulant depuis un accident de motocross à l'âge de 14 ans, qui seront au volant de la voiture du team SRT. Et comme le dit le pilote belge,
c'est juste incroyable. Il y a beaucoup de pilotes qui en rêvent et nous, bah, on est là. C'est un superbe message. N'ayez pas peur d'entreprendre des choses. Il faut pouvoir réaliser ses plus grands rêves. Pour moi, ça semblait impossible. Et maintenant, on est là à plus de 320 km sur les lignes droites de Linaudière. On sort de la voiture avec la banane et c'est que du plaisir.
Objectif pour cet équipage, passer le drapeau à damier coûte que coûte, dimanche après-midi.
Et on se fera bien sûr tout ça avec vous Frédéric. Frédéric Veil pour RTL. Un petit rappel, si vous rentrez de vacances, Bison Futé vous conseille de prendre la route avant 14h, c'est-à-dire dans une heure maximum. La journée est classée orange, c'est rouge sur un gros quart sud-est et attention à demain, ce sera pire, du rouge partout, noir même en PACA et en région Auvergne-Rhône-Alpes. Il y aura aussi du monde dimanche. Renseignez-vous donc et prudence, vous restez sur RTL. On vous tient bien sûr compagnie. 12h49, une toute petite pause et dans un instant, je vous emmène sur les chemins de Compostelle. À tout de suite.
Les chemins de Saint-Jacques sur RTL.
Comme tous les vendredis de l'été, on poursuit notre voyage sur les chemins de Compostelle et après le Puy-en-Velay, après les villages de Conques ou encore Laromieux, on vous retrouve, Denis Grandjou, à Saint-Jean-Pied-de-Port cette fois.
Oui, je me trouve au beau milieu de la rue de la Citadelle à Saint-Jean-Pied-de-Port pour la toute dernière étape de notre série sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. La ville espagnole se trouve à 750 km à vol d'oiseau et c'est ici le passage obligé. Aline est une ancienne marcheuse, aujourd'hui hôtelière.
C'est magique, c'est vraiment une étape parce qu'on a le choix. On peut passer aussi par la route, c'est plus plat. Mais franchement, ça vaut le détour de passer par la montagne.
Saint-Jean-Pied-de-Port, c'est la dernière étape française qui permet de traverser les Pyrénées donc pour atteindre Roncevaux. Et c'est l'étape la plus difficile. Laurent Inchospé est le maire de Saint-Jean-Pied-de-Port.
On entend parler toutes les langues du monde, puisqu'on a 85% de pèlerins qui viennent du monde entier, du Brésil, des États-Unis, de la Corée, des Japonais. On a maintenant même des Chinois qui viennent.
Alors pour se lancer dans cette aventure, il faut donc passer ici au 39 de la rue de la Citadelle. C'est une maison en pierre du 15e siècle. Là, des bénévoles distribuent le passeport indispensable.
La crédentiale, c'est un document qui est obligatoire pour pouvoir dormir dans des refuges ou des gîtes. À la fin, lorsqu'ils ont rempli la totalité de la crédentiale, ils arrivent à Saint-Jacques-de-Compostelle et ils présentent cette crédentiale comme preuve de leur pèlerinage. On leur donne un document qui s'appelle la Compostella, un certificat prouvant qu'ils ont bien fait le pèlerinage dans les conditions, par exemple à pied. Donc actuellement, c'est à pied, à vélo ou à cheval.
C'est la porte du chemin ici.
Ils appellent ça la porte du chemin. Je trouve l'image très belle.
Monique gère le bureau d'accueil et elle entend régulièrement des questions parfois étonnantes.
Où est la ligne de départ? Mais non, il n'y a pas de ligne de départ. Où est-ce que tu dors? Où est ton auberge? Ben, elle est à tel endroit. Bien voilà, c'est ta ligne de départ. Puis il y a celui qui vient et qui nous dit « Je voudrais deux crédentiales. » Oui, mais vous êtes tout seul. Oui, mais j'ai perdu mon mari et j'ai promis que j'allais faire le chemin pour lui, donc je voudrais une crédentiale pour lui aussi. Ça, c'est plein d'émotions, quoi.
Bonjour.
Bonjour.
Excusez-moi, c'est la radio. Ouais. Je fais un reportage sur les chemins.
Ah bon?
Vous faites?
Ah ouais?
Vous ne connaissiez pas avant?
Non, non, du tout.
J'ai dû faire 760 km en 28 jours, quoi, chose comme ça.
Ouais, bah c'est un peu dur, mais bon, si c'était facile, ça n'aurait pas de, ça aurait pas de valeur.
Pourquoi? C'est personnel comme question, ça.
Depuis la rue de la Citadelle, on perçoit au loin dans les nuages le col de Roncevaux. Alors on va tricher un peu et partir en voiture avec Jean-Louis, bénévole de l'association, sur le chemin très raide et pentu que les marcheurs doivent emprunter jusqu'à l'Espagne.
Là, on est à peu près au kilomètre 4 depuis Saint-Jean-Pied-de-Port. Sur à peu près 2 km, on va attaquer la partie la plus raide, la plus difficile du chemin. Pour partir de 185 mètres d'altitude à Saint-Jean-Pied-de-Port, il faut passer à 1440 mètres. Donc, tu fais la différence. Quand ils ont la chance de monter avec un beau temps comme aujourd'hui, évidemment, c'est le top.
Un point de vue incroyable qui peut donner le vertige. Au hasard d'une courbe, j'ai croisé une jeune femme avec un gros sac à dos et des chaussures de marche. Elle s'appelle Brani.
Marcher dans les pas de milliers de gens, un chemin qui a plus de 10 siècles, il y a quelque chose de très émouvant et très impressionnant là-dedans. Et je suis très émue et très impressionnée en fait. On est avec tout, avec la nature, avec l'univers.
Bon, Jean-Louis, on est où là?
Alors ici, on est à la fin de la petite route de montagne. Ici, on suit la piste qu'on a en face de nous. Tout au fond, là-bas, on voit une petite cabane au pied du mont qui est là-bas dans le col.
Et ce bruit qu'on entend, ces cloches, c'est celles qui sont accrochées au cou de ces magnifiques chevaux qui sont derrière nous, les voilà. Potiocs, les chevaux basques.
Les potiocs, oui, les chevaux basques, l'espèce endémique de la montagne basque.
Cette balade à quelques kilomètres de Saint-Jean-Pied-de-Port est vraiment à faire, même si vous n'êtes pas en pèlerinage. Alors renseignez-vous auprès de l'Office du tourisme de Saint-Jean-Pied-de-Port pour cet itinéraire totalement magique. Et n'hésitez pas, pour le parcourir, à vous aider de bâtons de marche. Au Pays basque, ils ont un nom. Les maquilas.
Chronique signée Denis Grandjou, à retrouver et à réécouter bien sûr sur l'application RTL. Dans une dizaine de minutes, un peu moins même, vous aurez la parole, hein, bien sûr, 3210, je vous le rappelle, comme chaque jour, pour réagir et commenter l'actualité. Avant cela, Claire Delhomme, petit coup d'œil avec vous sur la météo et il va falloir en profiter. Ces prochaines heures, demain aussi, parce que retour des orages tout bientôt. Hein.
Oui, exactement. Donc en fait, samedi restera globalement une belle journée, mais déjà, on va voir l'arrivée d'une nouvelle dégradation qui va pointer le bout de son nez donc par la Bretagne et qui va surtout concerner le nord-est puis ensuite le nord-ouest du pays. Donc le sud sera en marge de cette dégradation. Ça sera beaucoup de nuages dans un premier temps dans le Pays basque, mais ça va très vite se dissiper. Ça restera voilé du sud-ouest au nord-est, donc toute la journée. Le sud-est conservera un très beau temps à l'exception du delta du Rhône et du golfe du Lion avec des entrées maritimes, donc ça sera assez nuageux. Mais sinon, voilà, quelques orages qui pourraient se montrer localement forts vont concerner, donc que ce soit la matinée ou l'après-midi, le nord-est, progressivement aller vers le centre-est, vers les Ardennes, pour ensuite gagner l'Alsace en fin de journée. Un petit peu de pluie aussi du Pays Nantais vers le Pays de Caux, donc beaucoup de nuages. Et sinon, pour les températures, il faudra prévoir un petit pic de chaleur, même si en matinée, on aura entre 12 et 15 degrés de la moitié nord, 15 et 20 degrés plus au sud. L'après-midi, il faudra compter 25 degrés au Mans, donc ça sera assez lourd. 28 degrés à Lille comme à Paris, 29 degrés à Strasbourg, 32 degrés à Lyon et 30 degrés que ce soit à Montauban, Marseille ou encore à Ajaccio.
Et après?
Après les orages, on va surtout les retrouver dimanche à l'est du pays. À l'arrière, ça sera à nouveau un ciel de traîne avec un petit peu tout, des passages nuageux, du soleil aussi. Et puis lundi, s'annonce une journée encore assez mitigée avec les trois quarts du pays sous les nuages, mais le sud qui conserve un très beau temps et de la chaleur.
Non, c'est pas dingue.
Non,
on va dire.
Hein.
Bon, merci. Merci beaucoup Claire. Vous restez avec nous un tout petit instant. L'essentiel de l'actualité, ce sera à 13h et puis vous avez la parole. À tout de suite.
RTL Midi avec Amandine Bégaud.